Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. Au menu, la RDC, le lancement dans la ville de Beni de patrouilles intensives de la MONUSCO. Coup de projecteur sur la radio de la paix Mikado FM au Mali. Les nouvelles recommandations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour réduire les gaz à effet de serre. Et puis en dossier, l'appel d'ONU-SIDA pour impliquer davantage les communautés dans la lutte contre la pandémie. Au lendemain de l'attaque d'un camp des Nations Unies à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, par des manifestants dénonçant l'inaction des autorités face aux exactions d'un groupe armé, les casques bleus de la mission de l'ONU, la MONUSCO, menaient des patrouilles intensives dans la région. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Des bataillons bangladais et marocains ont mené aujourd'hui des patrouilles intensives et sur de longues distances dans plusieurs localités de la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. La région est en proie aux violences du groupe armé, des forces démocratiques alliées, les ADF. Lundi, à l'invitation du gouvernement congolais, la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, a participé à un conseil national de sécurité présidé par le président Félix Tshisekedi dans la capitale Kinshasa. À l'issue de cette réunion, l'envoyé de l'ONU a dit qu'elle comprenait la colère de la population de Beni dans la province du Nord Kivu, mais que la MONUSCO ne pouvait pas protéger la population de Beni contre les exactions des ADF si elle devenait la cible d'attaque par cette même population. « On veut qu'on travaille ensemble pour réduire la menace », a dit Leila Zerougui. La MONUSCO a indiqué qu'elle allait renforcer la coopération avec ses partenaires et travailler étroitement avec les autorités pour trouver conjointement des solutions en faveur de la population de Beni. Maximum de coordination et planification commune avec l'armée congolaise, il n'y a pas d'autre solution, a déclaré pour sa part le représentant spécial adjoint du secrétaire général en RDC, François Grignon. Pour la MONUSCO, l'unité, le calme et la détermination doivent nous guider pour mettre fin aux agissements criminels et lâches des ADF contre les populations civiles.
Au Mali, les Nations Unies ont déployé depuis plus de 6 ans une opération, la MINUSMA. Dans la foulée, une radio de la paix a été créée. Mikado FM diffuse ainsi ses programmes sur une vaste partie du territoire afin d'accompagner les efforts maliens pour établir une paix et une réconciliation nationale durable tout en renforçant les efforts de communication de la MINUSMA, comme le souligne le porte-parole de la mission, Olivier Salgado.
Mikado répond à un besoin de communication qu'ont les Nations Unies au Mali pour expliquer leur travail auprès de populations. Mais Mikado n'a pas vocation à émettre sur tout le territoire national. C'est le gouvernement qui nous a gentiment mis en place des fréquences pour pouvoir installer ces émetteurs qui permettent d'être un lien entre les régions, puisque vous le savez, au moment où je vous parle, on émet à Tombouctou, à Gao, à Kidal, à Bamako, à Mopti et dans d'autres,
endroits.
Donc c'est important. Mais l'idée n'est pas de créer une sorte de monstre audiovisuel incontrôlable qu'on puisse entendre partout au Mali. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'être dans les endroits essentiels, importants, où nous travaillons. C'est important aussi qu'on puisse émettre et s'expliquer dans la ville de Bamako, où se trouvent beaucoup de décideurs, d'influenceurs et de médias.
Il n'y a plus une minute à perdre. C'est le message lancé à Genève par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Selon le dernier rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 2019, il faudrait réduire les émissions de CO2 de 7,6% par an jusqu'en 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Un objectif ambitieux mais faisable. C'est le moment d'écouter la science, comme l'a affirmé Abdallah Moksit, secrétaire du GIEC.
Un des messages clés du rapport spécial qui a été préparé par le GIEC, c'est que rester en dessous de la barre de 1,5 n'est pas impossible. Mais ça requiert des actions très très ambitieuses. Il y a toujours la porte de possibilités pour essayer de rester en dessous de 1,5. Ceci dit, il faut prendre toutes les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Symboliquement, cette année 2019 est venue avec plusieurs rapports d'évaluation, que ce soit ceux qui viennent du GIEC, que ce soit le GAP Report qui vient d'être lancé aujourd'hui, que ce soit le rapport d'hier qui a été préparé par l'Organisation météorologique mondiale. Ça donne un bouquet d'informations qui donne aux décideurs, parce que la COP25, c'est le terrain des négociateurs. Il y a maintenant suffisamment d'informations scientifiques et chiffrées qui les rend responsables à prendre les actions. Parce qu'ils n'auront plus l'excuse ou bien le prétexte prétexte de dire on n'a pas compris. Non, la science est là, les chiffres sont là, et ils disent si vous ne faites pas, voilà un peu l'impact négatif, et voilà ce qui va compromettre la planète et aussi les générations futures. Et qu'est-ce qu'on va dire aux générations futures, les jeunes qui sont en train de lancer tous les appels nécessaires pour agir?
En préambule à la journée annuelle consacrée à la pandémie, l'agence chargée de la lutte contre le VIH-Sida, ou NUSIDA, fait le point. Son rapport note un recul du nombre de nouvelles infections et une augmentation de l'accès au traitement là où les personnes et les communautés vivant avec le VIH et affectées par le virus sont impliquées dans la prise de décision et la fourniture de services liés au VIH. Les précisions de Peter Gies, il est directeur du département information stratégique et évaluation à l'ONU-SIDA, des propos recueillis par Alpha Diallo.
Le rapport donne beaucoup d'attention aux communautés et aussi aux choix que les individus ont. Et donc, il dit que les communautés sont très importantes, surtout quand nous atteignons un niveau déjà assez élevé de connaissances et de mise sous traitement dans certaines parties du monde. Et donc, il devient important qu'on puisse atteindre les derniers individus. Et le rôle des communautés devient plus important parce que souvent, les personnes qui ne sont pas encore sous traitement, qui ne connaissent pas leur statut, souvent, ils sont plus difficiles à atteindre. Et donc, on veut s'appuyer aussi sur la communauté pour ça.
L'une des bonnes nouvelles de ce rapport, c'est que le nombre d'infections diminue. En même temps, les gens qui ont accès au traitement augmentent. Mais par rapport au traitement, qui passe de 24,5 millions à 37,9 millions, c'est dû à quoi, cette politique de traitement?
Il y a un très important effort d'essayer de mettre sous traitement jusqu'à 30 millions de personnes d'ici 2020. Et donc, ceci a été adopté comme une cible par beaucoup de pays et par les Nations Unies aussi, de mettre sous traitement. Disons que la cible, elle est souvent évoquée comme 90-90-90, c'est-à-dire que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. De ceux-ci, 90% sont sous traitement et aussi de ceux qui sont sous traitement, que 90% aient une suppression du virus de façon à ce qu'ils ne puissent pas transmettre le virus à d'autres personnes.
Et ces chiffres encourageants, c'est dans toutes les régions du monde par rapport au traitement?
Oui, de façon globale, il y a une évolution importante. Les progrès les plus marquants, peut-être, sont réalisés en Afrique de l'Est et Australie, et aussi dans le monde de l'Ouest, c'est-à-dire les pays développés en Europe, en Amérique et en Australie. Et
malgré ces progrès réalisés dans la lutte contre le sida, le rapport aussi annonce que 1,7 million de personnes sont nouvellement infectées par le VIH. C'est dû à quoi?
Bon, ça reste un très grand souci parce que pour que la réponse puisse devenir vraiment quelque chose de plus gérable, il ne faudrait pas qu'on ait beaucoup de nouvelles infections. Et donc, le fait de devoir réduire le nombre de nouvelles infections est très important parce que sinon, les coûts de traitement vont continuer à augmenter et ce sera difficile de maintenir une réponse qui puisse gérer ça. Et pour réduire le nombre d'infections, il y a de plus en plus d'options de prévention qui sont disponibles. Dans le rapport, nous disons qu'il y a un rôle particulier pour les communautés et pour les individus aussi d'avoir un choix et aussi d'amener ces différentes options près de la communauté qui en auront besoin.
Et par rapport aux infections, les régions les plus affectées, notamment en Afrique subsaharienne, c'est le cas en Afrique de l'Est et en Afrique australe, on voit aussi que les infections ont diminué de pratiquement 10% à 28%. Y a-t-il une explication par rapport à cette diminution?
Bon, il faut dire que c'est la région qui a déjà la prévalence la plus élevée du VIH par rapport à d'autres régions. Le VIH est présent dans le discours des politiciens et dans la tête aussi des politiciens. C'est quelque chose de prioritaire pour le pays. Et aussi, il faut dire que peut-être suite à cela, que le financement aussi a suivi, que ce soit des gouvernements eux-mêmes ou aussi des pays donateurs. A priori, dans beaucoup de ces pays, il y a un bon niveau d'investissement pour la réponse contre le VIH. Et donc, les résultats aussi ont suivi, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Est et l'Australie est la région où on voit la diminution la plus importante des nouveaux cas de VIH.
Dernière question, quelles sont vos explications par rapport à cette augmentation de nouvelles infections en Europe de l'Est et en Asie centrale de pratiquement de 29% à 10% respectivement?
Bon, là, le problème se pose de façon différente parce que la prévalence du VIH dans la population générale n'est pas très élevée et donc on retrouve le VIH beaucoup plus dans les populations clés, que ce soit des personnes qui injectent des drogues, que ce soit des personnes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ou aussi des femmes travailleuses de sexe. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, y compris avec les communautés, pour atteindre ces populations.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur Internet, mais aussi sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.